BW. Vue d'Allemagne.
Huit ans après la révélation des premiers cas d'abus sexuels, l'Église catholique allemande demande pardon aux victimes. Une étude vient d'être publiée, le célibat des prêtres est une des questions soulevées par ses auteurs. Jérusalem va-t-elle tomber aux mains des ultra-orthodoxes? À l'approche des élections municipales israéliennes le 30 octobre, l'emprise des fondamentalistes se fait de plus en plus sentir dans la ville et les laïcs s'inquiètent. Voilà pour le sommaire de ce nouveau numéro de Vue d'Allemagne. Willkommen et bienvenue. Jesus were a black man standing
at the dusk of time. Wir brauchen den Mut und die Kraft.
Nous avons besoin de courage et de force pour entreprendre un nouveau départ, pour donner des signes afin que les gens nous croient de nouveau, car ils sont nombreux à ne plus nous croire.
Viele glauben uns nicht mehr.
Le cardinal Reinhard Marx à l'ouverture mardi 25 septembre de la rencontre d'automne des évêques d'Allemagne à Fulda, dans le centre du pays. Le même jour, la conférence épiscopale a tenu une conférence de presse pour présenter une étude sur les cas d'abus sexuels commis au sein de l'Église catholique allemande au cours des 7 dernières décennies. Plus de 300 pages d'une enquête réalisée auprès de 9 évêchés sur les 27 que compte l'Allemagne. Près de 3700 victimes ont ainsi été recensées entre 1946 et 2014, victimes de plus de 1600 prêtres, diacres et autres représentants de l'Église catholique. Mais ces chiffres n'entendent pas refléter la réalité. C'est ce qu'a expliqué le professeur Harald Dressing de l'Institut de psychologie de Mannheim qui a conduit l'étude.
Ces chiffres ne représentent en aucun cas celui de toutes les personnes concernées. Il s'agit des résultats de différentes approches méthodologiques. Ici, on voit sans doute seulement le haut de l'iceberg.
Les auteurs de l'étude ont relevé un pourcentage plus élevé de jeunes garçons victimes d'abus sexuels et ils ont identifié deux facteurs de risque, le célibat des prêtres et l'attitude de l'Église vis-à-vis de l'homosexualité.
Ni l'homosexualité ni le célibat ne peuvent expliquer à eux seuls les abus sexuels sur mineurs, mais le mélange complexe entre l'immaturité sexuelle, le rejet, voire la négation d'un penchant homosexuel dans un entourage ambivalent et parfois homophobe peuvent bien sûr être des raisons pour le nombre important de victimes masculines dans les abus commis par des membres du clergé catholique.
Dans sa paroisse d'Oberhausen, le père Fabritz est encore ébranlé par l'ampleur du scandale.
Je me demande parfois que pensent les gens de toi, que pensent-ils de la manière dont tu fais ton travail de prêtre? Est-ce qu'ils se demandent aussi parfois si chez moi tout est en ordre?
Le prêtre n'a pas attendu la présentation officielle de l'étude pour aborder le sujet avec ses paroissiens. Il en a fait le sujet de son prêche à la messe dominicale.
Un chapitre sombre, probablement le plus sombre de l'Église.
Après la messe, les paroissiens se retrouvent pour un café et le scandale des abus sexuels est le thème numéro un des discussions.
Je suis profondément bouleversé par le fait que l'Église a caché tout ça sous le tapis pendant des décennies. De mon point de vue, il faut vraiment poursuivre les responsables, non seulement au sein de l'Église, mais aussi au pénal.
Je me sens triste et en colère.
C'est vraiment terrible ce qui s'est passé et donc d'autant plus important de régler tout ça en détail.
Je suis pour l'abrogation du célibat, je pense que ça réduirait les cas.
Comme dans tous les pays où des scandales d'abus sexuels ont été révélés au grand jour, récemment encore en Australie, au Chili ou aux États-Unis, les critiques portent aussi surtout sur la manière dont l'Église règle les cas qui remontent jusqu'à elle. Un problème que les auteurs de l'étude ont également souligné. Écoutez encore le professeur Harald Dressing.
La réaction de l'Église dans un nombre considérable de cas a été inadéquate. La protection de l'institution et des auteurs d'abus a manifestement primé sur les intérêts des victimes.
Les victimes, Erika Kerstner les connaît bien. Elle a fondé il y a 16 ans l'initiative des chrétiennes survivantes de violence pour aider les femmes qui ont subi des abus sexuels dans leur enfance ou leur adolescence. Sur son site web, elle documente quels responsables religieux ont démissionné ces dernières années en Allemagne, officiellement pour des raisons de santé.
Quand je vois que 40% des auteurs d'abus ont eu entre 2 et 100 victimes, je ne peux que constater que ceux qui les ont mutés dans d'autres paroisses ou institutions sont eux aussi impliqués dans leurs crimes. Le pape a dit il y a 2 ans, à son retour du Mexique, qu'il attendait que ceux qui ont caché la vérité démissionnent. Je ne connais dans le monde aucun évêque qui a avoué de lui-même avoir dissimulé la vérité. C'est arrivé uniquement sous la pression de l'opinion publique.
Das ging immer nur unter öffentlichem Druck.
Erika Kerstner réclame une prise en charge ciblée des victimes d'abus sexuels au sein de l'Église, mais aussi une meilleure prévention des futurs membres du clergé. Et c'est un sujet qui devrait être discuté lors de la réunion de tous les présidents des conférences épiscopales du monde, prévue en février 2019 au Vatican, sur invitation du pape François. Le 30 octobre prochain, les Israéliens vont se rendre aux urnes pour des élections municipales dans toutes les villes du pays. À Jérusalem, ces élections vont être décisives. L'actuel maire Nir Barkat, qui vient de rejoindre le Likoud pour entamer une carrière politique à l'échelle nationale, favorise depuis plusieurs années les juifs ultra-orthodoxes de la ville afin d'obtenir leur soutien électoral. De nouvelles lois visant à restreindre l'ouverture des commerces pendant le Shabbat divisent la population. Avec l'aide de la municipalité, les ultra-orthodoxes envahissent en effet petit à petit les quartiers laïcs de la ville. Même les bars du marché Mahane Yehuda, lieu central de la vie nocturne estudiantine fréquentée par toutes les couches sociales de la ville, eh bien ces bars sont menacés, bien qu'ils soient déjà fermés pendant le Shabbat. Très bruyants, ils sont en effet vus comme des lieux de débauche par les leaders ultra-orthodoxes. Autre signe, les images de femmes ont quasiment disparu des affiches publicitaires de Jérusalem, dans les rues et sur les autobus. Conséquence, les laïcs quittent petit à petit la ville. Ils représentent aujourd'hui seulement 21% de la population et l'élection du futur maire inquiète ceux qui sont restés. Jérusalem, désignée comme la capitale d'Israël, un pays qui se proclame pourtant démocratique et laïque, va-t-elle tomber entre les mains des religieux de l'extrême ? Un reportage de notre correspondante Hélène McLean.
Plusieurs milliers de personnes sont venues protester contre les violences sexuelles faites aux femmes à la marche des salopes en plein centre-ville. Des femmes torse nu ont défilé sous les yeux éberlués de passants pour la plupart religieux. C'est là que nous avons rencontré Nili Madresh, le numéro 2 de la liste Meretz à Jérusalem, un parti écologique de gauche.
Être une femme féministe à Jérusalem, c'est loin d'être simple. La ville est composée d'une multitude de cultures différentes. Une partie de la société est pluraliste et souhaite que la ville soit ouverte et laïque. Mais une autre grande partie des habitants stoppe toutes les tentatives d'ouverture et veut amener la ville vers une forme d'obscurantisme. Ils veulent une ville où les femmes restent en retrait, avec un gouvernement patriarcal où les hommes décident de tout et contrôlent les femmes. Personnellement, il m'est arrivé plein de fois dans les transports publics que des gens viennent me dire « Mais comment tu es habillée ? Tu déranges les passagers, tu déranges la sainteté de la ville. C'est un bus d'ultra-orthodoxe ici. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des transports publics. C'est nous qui payons pour cela. Mais la mairie de Jérusalem ne fait strictement rien contre ce genre de situation qui arrive quotidiennement.
Yossi Ravilio, candidat aux prochaines élections municipales, a créé un parti « Sauvons Jérusalem ». Cet ancien avocat de l'actuel maire de Jérusalem explique comment les intérêts politiques de ce dernier l'ont poussé à littéralement vendre la ville aux ultra-orthodoxes.
Les ultra-orthodoxes représentent un très gros pourcentage de l'électorat global du pays. C'est pour ça qu'ils ont une grande influence politique, notamment au sein des conseils régionaux. Actuellement, les ultra-orthodoxes s'installent dans les quartiers des laïcs de la ville, avec la complicité de la mairie, qui leur permet d'installer des établissements scolaires ultra-orthodoxes au cœur des quartiers non religieux dans des appartements. Ensuite, des familles ultra-orthodoxes viennent vivre dans ces quartiers et poussent les laïcs à partir, en imposant leurs règles de vie au voisinage. Non seulement ça n'est pas légal, et en plus c'est la mairie qui fait cela, alors que c'est elle qui est censée faire respecter la loi. C'est une des raisons pour lesquelles les jeunes quittent Jérusalem.
Pour Moshe Lion, un autre candidat aux élections municipales qui représente le Chass, le parti ultra-orthodoxe des Juifs séfarades, il n'y a aucun doute. Jérusalem doit vivre au rythme des lois juives religieuses.
Le quartier de loisirs de la gare ottomane à Jérusalem, comme tous les lieux de sortie ou de commerce de la ville, doivent se plier aux règles d'un statu quo avec les ultra-orthodoxes. S'il n'y a plus de commerce à Jérusalem et dans tout le pays, ouvert durant le Shabbat, alors à la gare ottomane non plus. Je suis contre l'ouverture des commerces pendant le Shabbat à Jérusalem et dans tout le pays. Des lieux construits par la municipalité ne peuvent pas être ouverts pendant le Shabbat. C'est ça le statu quo. Mais avant tout, aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est le départ des jeunes de la ville. Plus de 8000 personnes la quittent chaque année. C'est un chiffre qui fait très mal. C'est la population la plus active de Jérusalem qui quitte la ville. Pour moi, la solution est de construire plus d'immeubles, des tours très hautes, pour multiplier le nombre d'appartements disponibles, afin de faire baisser les prix de l'immobilier devenu trop cher pour les jeunes. Et ça n'est pas suffisant. La taille des zones industrielles de Jérusalem doit grandir afin de créer plus d'emplois.
Jusqu'en 2003, la municipalité s'était interdite la construction de gratte-ciel afin de préserver le caractère historique de la ville. Jérusalem, riche en bâtiments anciens, lieu saint des trois religions monothéistes, a toujours été habitée par une population éclectique aux origines multiples. Le choix du futur maire de Jérusalem risque de changer le visage millénaire de la ville. Hélène McLean à Jérusalem pour la Deutsche Welle. Et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci de votre écoute et de votre fidélité au programme de la DW. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotta-Talon à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss.
Ich sag's gleich vorneweg, ich bin ein Atheist. Das bedeutet, ich bin überzeugt, dass Gott eine Story ist. Doch der Vibe dort hat mich überrascht, hat mich eingefangen und gecasht.